Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, au sommet du G7 en France, le secrétaire général de l'ONU a appelé la mobilisation face au changement climatique. En République démocratique du Congo, la MONUSCO se félicite de l'annonce de la composition du gouvernement. À Genève, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme rappelle que les conflits, les crises humanitaires et les crises climatiques engendrent des situations à haut risque pour les personnes handicapées. Et en dossier, une jeune femme camerounaise, victime du terrorisme, nous explique comment elle tente de survivre aujourd'hui avec ses 4 enfants. Antonio Guterres est à Biarritz pour participer au sommet du G7. Dans cette ville du sud-ouest de la France, qui accueille cette année les dirigeants des principaux pays industrialisés, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les États à se mobiliser pour le sommet de l'ONU sur le climat, qui se tiendra en septembre au début de l'Assemblée générale. Pascal Sim nous en dit plus.
Au sommet du G7 à Biarritz, Antonio Guterres a rappelé que le monde vit dans une crise climatique, qu'il est absolument nécessaire de combattre, citant les incendies menaçants à travers le monde, notamment en Amazonie. Lors de ce sommet, le président français Emmanuel Macron, dont le pays préside le G7, a annoncé une initiative pour l'Amazonie qui sera lancée lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Antonio Guterres a saisi l'occasion de la réunion du G7 pour souligner que les engagements pris dans l'accord de Paris pour le climat ne seront pas suffisants et que la situation aujourd'hui est bien pire qu'elle ne l'était lors de la conclusion du texte il y a 4 ans. Le chef de l'ONU a appelé les pays du G7 à suivre la mobilisation de la jeunesse et des nombreuses organisations, villes et entreprises pour qu'ils puissent s'engager dans une neutralité en carbone en 2050. Tout cela nécessite beaucoup de volonté politique et le G7 a été une excellente occasion de faire appel au très puissant engagement de la communauté internationale, a dit le secrétaire général des Nations Unies, qui a appelé les États membres à venir au sommet de l'ONU sur le climat en septembre à New York avec des engagements concrets pour le climat.
La MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU dans ce pays se sont félicités ce lundi de l'annonce de la composition du gouvernement congolais. Pour l'ONU, cette annonce attendue depuis la tenue des élections présidentielles en début d'année constitue un développement positif pour la RDC, la poursuite de la passation pacifique du pouvoir. On écoute Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
La première réaction, c'est de saluer cette annonce, car elle constitue un développement positif pour la République démocratique du Congo. Car nous assistons à la suite logique de la transition pacifique du pouvoir. Nous constatons que le processus politique continue à avancer, que la coalition au pouvoir se maintient, et nous espérons que l'opposition jouera le rôle qui est le sien pour la consolidation de la démocratie dans le pays. Alors nous espérons également que la majorité parlementaire et le président travailleront ensemble pour le bien-être des Congolais et nous-mêmes, nous nous félicitons d'avoir un partenaire avec lequel nous allons poursuivre la mise en œuvre de notre mandat et avancer vers la stabilisation et le développement durable de la République démocratique du Congo. On est encore loin de la parité, mais je vais voir plutôt le verre à moitié rempli et 17%, c'est plus que la représentativité à l'Assemblée nationale, par exemple, et en province. Donc c'est un signe encourageant.
Le Comité des droits des personnes handicapées a ouvert ce matin les travaux de sa 22e session au Palais des Nations à Genève. Dans un discours, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a souligné que les conflits, les crises humanitaires et la crise climatique engendrent des situations à haut risque pour les personnes handicapées. Elle a toutefois estimé qu'il y avait une lueur d'espoir. Michelle Bachelet.
De la Syrie au Yémen, au Myanmar, au Soudan du Sud et dans bien d'autres pays, les personnes handicapées doivent fuir pour leur sécurité et risquent d'être exposées à de graves préjudices. Dans de nombreuses crises humanitaires, sinon toutes, nous voyons encore un grand nombre de personnes handicapées qui ne reçoivent pas d'aide et des services vitaux. Dans ce contexte, je suis encouragée par un nombre de mesures adoptées récemment par des organes internationaux. En juin, le Conseil de sécurité a adopté sa première résolution jamais, appelant les États et les parties au conflit à protéger les personnes handicapées dans les situations de conflit, veillant à ce qu'elles aient accès à la justice, à des services de base et à une aide humanitaire sans entrave. Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité pour les États de mettre fin à l'impunité pour les actes criminels commis contre des civils, y compris les personnes handicapées, et de veiller à ce qu'elles aient accès à la justice, à des recours effectifs et, le cas échéant, à des réparations. Le Conseil a également exhorté les États à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Les Nations Unies ont commémoré la semaine dernière la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. En début d'année, ONU Info s'est rendu dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour rencontrer des personnes dont les vies ont été brisées par le terrorisme. Daniel Dickinson a rencontré Mama Amidou, qui a fui son village après des violences commises par des membres du groupe extrémiste Boko Haram. Elle s'est réfugiée à Kourgui et elle raconte comment elle tente aujourd'hui de survivre avec ses 4 enfants.
Moi, je m'appelle Mama Amidou. Oui, je suis déplacée de Bornori pour venir ici à Kourgui à cause des BH. Oui, je suis la mère de 4 enfants. Les 2 sont à l'école secondaire. Et 1 aussi est à l'école primaire. 1 d'abord est déjà avec moi. Elle a 4 ans. Il n'est plus à l'école. L'école est important puisque c'est pour leur avenir. Même si le jour où je deviens vieux, je n'ai pas quelque chose là. Les enfants ont fréquenté, ils peuvent m'aider. Et eux-mêmes. Et encore l'avenir de leurs enfants quand ils seraient mariés.
Et il paraît que vous êtes très fière de vos enfants.
Nous sommes très fiers, vraiment. L'école évolue, je me bats avec eux, avec mes petits commerces que l'ONU m'a donné. Bon, je suis en train de me battre. J'ai déjà même fait un petit dossier pour le BPC. Oui, je suis en train de me battre jusqu'à présent. Oui.
Comment va le commerce?
Au départ, là, je vendais le coquille et le gâteau. Au départ, dès le premier... Donc, oui, j'ai fait un peu d'haricots, un peu de gâteau. Et l'ONU m'a donné l'argent, maintenant j'ai acheté en quantité. L'haricot, 1 sac d'haricots, 1 sac de la farine. Je me bats jusqu'à ça s'est agrandi. J'ai cotisé l'argent, j'ai cherché un petit terrain ici. J'ai acheté le terrain, j'ai construit, maintenant je n'ai pas encore tollé. Je me bats, j'ai un peu à en avoir de l'argent.
Il me paraît que vous soyez une femme avec beaucoup d'ambition. Oui. Vous êtes une femme forte.
Oui. Donc l'ONU est déjà partie. Il y a les gens de Sans Frontières qui cherchaient les gens pour travailler. On m'a dit qu'il y a Mama qui a un peu travaillé avec nous là. Peut-être il va encore vous travailler avec vous. Ils m'ont pris au Sans Frontières. Maintenant, je suis relais communautaire là-bas, au Sans Frontières. On fait sur la sensibilisation, sur la malnutrition, les recherches des femmes enceintes, les malades. S'il y a les malades qui ne veulent pas aller à l'hôpital, nous on part. J'ai dit, la mère, pourquoi tu ne veux pas aller à l'hôpital? Il n'y a pas le moyen financier. J'ai dit que non. Sans Frontières là-bas, ils sont venus nous aider, ils ne veulent pas de l'argent. C'est gratuit. On prend une boule de papier, on écrit le nom, on réfère à l'hôpital pour prendre les médicaments.
D'où vient... votre force? Parce que je vois que vous avez de la puissance
oui.
naturelle,
oui.
De la force. D'où vient ça?
C'est l'ONU que ça a commencé par l'ONU et le Dieu. Je suis sauvée par les BH, Dieu m'a sauvée, je suis rentrée ici, l'ONU aussi a appuyé. Oui.
Et combien d'argent est-ce que vous faites par jour, par le commerce?
Oui.
Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent?
J'ai 5 000 par jour.
Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent?
La ration, on rationne, on mange avec les enfants, les petits déjeuners. Quand les enfants partent à l'école, ils veulent encore de l'argent. 100 francs, 50 pour aller manger les caramels là-bas à l'école. Avec les enfants qui partent à l'école, l'inscription, je me bats avec ça. Nous sommes à l'aise. Et s'il y a la maladie, on peut encore ramener les enfants à l'hôpital. Si ça ne va pas ici, on ramène à Mora. Oui, sur nos villages.
Comment est-ce que BH a changé votre vie?
BH a changé ma vie. Il a pris mon mari. Je suis restée avec les 4 enfants. C'est moi qui fais tout. Si j'en avais mon mari, lui aussi c'est bon. Moi aussi je m'en bats. Nous étions à 2. Maintenant, c'est moi seule qui fais tout pour les enfants. Même acheter les babouches, même l'huile pour se oindre, même le savon, la ration, l'inscription, tout c'est moi.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.